Alors on va maintenant tout de suite s'intéresser à l'expansion de Daesh.
Daesh détrône Al-Qaïda et lance une OPA sur l'international du djihadisme.
Daesh, malgré les apparences d'un groupe sanguinaire et déchaîné, c'est aussi un projet idéologique et une représentation géopolitique rigoureuse et cohérente. Daesh se réclame de la tradition et du culte de l'authenticité, celles qui lui viennent tout droit du prophète Mahomet et de la parole du Coran. Il apporte donc autant une légitimation religieuse qu'un véritable programme d'action politique, une forte charge idéologique, n'est-ce pas Thomas ?
Oui, c'est ce qu'on, évidemment, c'est ce qu'il faut conclure, Céline, parce qu'avec ce retour du califat, Daesh fait référence au premier temps de l'islam, en 632, quand meurt le prophète Mohammed. Pour le remplacer, c'est son ami et parent Abou Bakr qui est choisi comme successeur, c'est-à-dire comme calife.
Ah, donc c'est de là que ça vient, un calife, c'est un successeur du prophète.
Voilà, c'est ça, et Daesh se place dans la filiation directe du prophète et de ses premiers successeurs. Parce que quand Abou Bakr devint calife en 632, il eut ces mots « Je suis devenu votre souverain, mais je ne suis pas le meilleur d'entre vous. Si je me conduis bien, aidez-moi. Si je me conduis mal, rectifiez-moi. » Et ce sont exactement ces mots qu'a prononcé Al-Baghdadi le 4 juillet 2014 dans la mosquée de Mossoul. Il était d'ailleurs apparu vêtu de la moussafia et de la bourda, c'est-à-dire du turban noir et du manteau noir, qui sont les attributs de Muhammad.
Mais pourquoi donc cette référence directe au premier temps de l'islam ?
Parce que les premiers temps de l'islam, ce sont aussi les temps d'avant la fitna.
La fitna.
Alors, fitna, petit point vocabulaire, ça veut dire sédition en arabe, et c'est une référence historique précise à la division entre chiites et sunnites, arrivée au milieu du 7e siècle. Donc, avec le terme de califat, c'est bien la volonté de dominer tous les musulmans, quelle que soit leur confession, que semble affirmer Daesh. Surtout que la théorie politique, l'idéologie du califat, elle s'est mise en place entre le 9e et le 12e siècle, c'est-à-dire sous les Abbassides, puis sous les Seljoukides. Elle fut définie contre la Jahiliya, c'est-à-dire la barbarie anté-islamique, qui perdurait chez les non-musulmans, mais surtout chez les syndics, les hérétiques chiites. Plus précisément, ce qui concerne Daesh, cette théorie du califat, elle repose directement sur les Ahkam al-Sultaniya, ou les statuts gouvernementaux, écrits par Abu al-Hassan al-Mawardi au XIe siècle, puisque ce document, il constitue rien moins que la charte de gouvernement de l'État islamique en Irak et au Levant. Or, comme l'avait montré Hamilton Gibb, ces Ahkam sont des textes de circonstance visant à défendre la position des Abbassides sunnites contre les dynasties chiites concurrentes, que ce soit les seigneurs de guerre bouillides à Bagdad ou les Fatimides du Caire.
Donc le califat, c'est moins une menace pour l'Occident qu'une attaque directe contre le chiisme et le kharijisme, c'est ça Thomas ?
Oui. Et non, Céline, c'est-à-dire que pour reconstituer l'Oumma, c'est-à-dire la communauté des croyants, autour du sunnisme, Daesh se sert du rejet de l'Occident. C'est ce que l'on comprend bien avec les propos d'Al-Anani, le porte-parole de Daesh, lors de son annonce de la proclamation du califat. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas soutenir ou vous rallier à ce calife, car le calife Ibrahim, que Dieu le garde, a parfaitement réuni toutes les conditions exigées par les maîtres pour le califat. Rejeter la démocratie, la laïcité, le nationalisme et autres ordures de l'Occident.
Donc, le rejet de l'Occident comme étendard pour rassembler l'Oumma. Mais pourquoi un croyant doit obéir à son calife, Toba ?
Déjà, il faut rappeler que selon la formule, le pouvoir et la religion sont deux frères et aucun ne peut se passer de l'autre. Le calife, donc, en tant que vicaire du prophète, il a une autorité à la fois religieuse et politique. Or, selon la tradition, une allégeance inconditionnelle lui est due par tous les musulmans et elle se manifeste notamment lors d'une prestation collective de serment baya.
D'accord, donc dans un des textes sacrés de l'islam, on trouve l'injonction d'une allégeance inconditionnelle au calife pour tous les membres de l'Oumma.
C'est encore plus compliqué que ça, Céline. Et c'est là toute la manipulation des textes sacrés qu'opère l'islam radical. Cette prétention à une allégeance inconditionnelle reposerait sur la sourate 4, verset 59. Je la lis. « Obéissez à ceux qui parmi vous détiennent le commandement ».
Ah oui, non, mais c'est quand même très vague tout ça, on est très loin d'une allégeance inconditionnelle.
Oui voilà, c'est très vague. Le problème, c'est que nombre de musulmans, notamment ceux qui se radicalisent, ne lisent plus le Coran. Ils en lisent des digests, des interprétations, comme par exemple le best-seller « La voix du musulman » paru en 86 et écrit par Abou Bakr Jaber El-Jazari, dans lequel on lit à la page 88, je cite « Il est formellement interdit aux musulmans de s'insurger contre les autorités ». Et un peu plus loin, le musulman est tenu de participer à la guerre sainte à leur côté. Donc Céline, non seulement l'auteur déforme la sourate, ce qui en soi est déjà un péché, hein, puisque le Coran divisé en sourates regroupe les paroles d'Allah, les révélations faites au prophète hein, par l'archange Gabriel. Donc déformer une sourate, c'est déformer la parole de Dieu. Mais surtout, l'auteur lit ce texte de la soumission musulmane à celui du djihad, et là, on retrouve l'idée d'une menace pour l'Occident, surtout que ce livre, hein, La Voix du musulman, qui professe un islam rigoriste et qui fait donc la promotion de la guerre sainte, il était en vente libre dans toute l'Europe et il a bénéficié de plusieurs rééditions jusqu'en 2011. Et la polémique soulevée par Le Figaro sur les passages pro-djihad, il était même disponible en France, à la Fnac et à Carrefour.
Bon, ce que vous avez sur le califat, effectivement, avec la disparition du califat en Turquie en 1924, lorsque la Turquie est devenue une république laïque avec Atatürk, le califat a disparu. On a eu, à un moment donné, le shérif de la Mecque, Hachemite, qui a voulu se proclamer calife. Ça a duré 2 ans, mais il n'a pas été suivi parce qu'il n'avait pas demandé l'autorisation en Britannique à l'époque, sinon ça aurait peut-être marché. Et à partir de là, il y a une vacance du califat, comme c'est l'équivalent d'une vacance de la papauté, quoi. Et Ayman al-Zawahiri, Ben Laden n'ont jamais osé franchir le pas se proclamer calife. Ce qu'a fait al-Baghdadi, et il revient effectivement à l'idéologie du califat des premiers siècles, des premières années de l'islam, pour étendre son influence à l'ensemble du monde musulman.
Cette idéologie universaliste, alliée à une communication efficace et des faits d'armes qui parlent pour eux-mêmes, crée un appel d'air pour les autres groupes terroristes dans le monde, qui sont appelés par Daesh à frapper des cibles occidentales. Car qu'on se le dise, Daesh est maintenant devenu une franchise. L'organisation a enregistré des ralliements hors de sa zone de contrôle et a validé l'allégeance, donc la baya, de plusieurs groupes, parmi lesquels Ansar Bayt al-Maqdis dans le Sinaï, Ansar Dawat al-Islamiyya au Yémen, Majlis Shura Shabab al-Islam en Libye, Ansar al-Tawhid en Inde, Jundala au Pakistan, la Brigade de l'Islam dans le Khorasan en Afghanistan, Abu Sayyaf et les combattants islamiques pour la liberté de Bangk Samoro aux Philippines, une partie du Jama Ansarut Tawhid en Indonésie, etc. Alors le dernier ralliement en date, très médiatique aussi, c'est celui du groupe Boko Haram. Avec ce ralliement, le HIC ont désormais 4 franchises en Afrique. Donc Boko Haram, les soldats du califat en Algérie, Derna en Libye, une petite ville côtière libyenne, d'où Daesh a mis en scène l'assassinat de 21 coptes égyptiens, et enfin les djihadistes du Sinaï en Égypte, face au général Sissi actuellement. Alors, est-ce que parler d'une internationale djihadiste aujourd'hui, Fabrice Balanche, c'est exagéré ou en tout cas très inquiétant ?
Non, c'est pas exagéré, mais ça fait plusieurs décennies qu'elle existe, cette internationale djihadiste. Bon, là, ce qui se passe, c'est qu'on a une nouvelle organisation, Daesh, qui s'est séparée d'Al-Qaïda et qui commence à essaimer un peu partout dans le monde. Et ça fonctionne parce que vous avez tout un tas de groupes terroristes, de groupes de brigands qui contrôlent des territoires, qui contrôlent des réseaux de trafiquants, etc., qui ont besoin de dépasser le stade de petits groupes de voyous locaux, de donner un sens à leur action, et qui donc font faire allégeance à al-Baghdadi, à Daesh. Ainsi, la prise de contrôle du terminal pétrolier à côté de Derna, c'est plus un groupe de terroristes, de mafieux qui mettent la main sur une ressource, c'est dans un but universaliste pour proclamer l'islam dans toute la planète. C'est comme ça qu'il faut le lire. C'est un moyen d'accaparer des ressources. Ces gens-là ne sont pas du tout des idéologues.
Bien sûr. Alors pour lutter contre cette hydre à mille têtes, vous avez évoqué justement ces ressources. Certains proposent aussi, bien sûr, de lutter contre les financements de Daesh. De ce côté, évidemment, rien de très clair. Aucun État n'ose s'afficher encore comme le sponsor officiel de l'EI. Pourtant, de très forts soupçons pèsent sur certains pays en particulier, les monarchies pétrolières du Golfe Persique. En premier lieu, le Qatar, le richissime État gazier, a déjà financé ou appuyé des groupes sunnites radicaux par le passé, comme les Frères musulmans, et de forts soupçons pèsent sur des personnalités qatariques, appartenant au gouvernement ou au milieu d'affaires, qui auraient donc organisé des transferts d'argent, des sommes en liquide. Le Qatar nie pourtant vigoureusement toute opération de financement de Daesh. Le 26 octobre dernier, c'est l'émir du Qatar en personne qui a fait une distinction très claire entre les mouvements islamistes qu'il appelle non extrémistes et qu'il soutient, notamment le Hamas palestinien ou les Frères musulmans, et puis donc Daesh. Alors pour vous, Fabrice Balanche, un financement passé ou toujours actif de Daesh par le Qatar, ça vous paraît plausible ?
Oui, là le Qatar, à mon avis, a continué à financer Daesh au cours de l'année 2014. L'Arabie Saoudite a dû arrêter ses financements en 2013, soutenant plutôt Al-Nusra et d'autres groupes pro-saoudiens en Syrie. Et comme lançant justement ces groupes Al-Nusra et Ahrar al-Sham à l'attaque contre Daesh, ce qui fait que le Qatar a soutenu Daesh, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a une rivalité entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Donc voilà, le Qatar a continué à soutenir Daesh pour embêter les Saoudiens.
Bien sûr. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite a répondu à la menace, disons, Daesh, en massant près de 30 000 hommes sur ses frontières et aussi par la construction d'un mur de protection qui est long de 900 km sur sa frontière avec l'Irak. Ces financements extérieurs, selon vous, ils représentent une part importante des ressources de Daesh ?
Difficile à dire. Donc, Romain Cayet les évalue à 5% pour minimiser justement le poids du Qatar et de l'Arabie Saoudite dans les financements extérieurs. Je ne sais pas comment il peut les évaluer. C'est tellement opaque que de toute façon, on ne peut absolument rien dire là-dessus. Ceux qui ont des chiffres, à mon avis, c'est de la fabulation, parce que je ne vois pas comment on peut le chiffrer exactement. Il est clair qu'il y a des financements qui pouvaient venir de la part des États directement. Mais ensuite, un pays comme l'Arabie Saoudite, le pouvoir n'est pas monolithique. C'est-à-dire que c'est une famille royale qui est énorme. Et dans les querelles de succession qui règnent au sein de l'Arabie Saoudite, eh bien, vous avez un clan qui va financer par exemple Daesh pour embêter le ministre de l'Intérieur qui appartient à un autre clan et lui barrer la route vers la succession. Enfin bon, tout est possible. Et puis ensuite, de généreux sponsors privés qui, par je dirais idéologie, vont également financer Daesh. Alors, ce n'est pas des transferts, hein, c'est des valises de billets qui circulent.
Il est très difficile de lutter contre ce type de financement, puisque le Conseil de sécurité récemment adopté une résolution pour interdire justement de mettre des fonds à disposition de Daesh en surveillant des établissements financiers. Mais est-ce que ça a vraiment une chance de réussir ?
Non, parce que bon, je dis, en Turquie, il y avait à Urfa une ONG koweïtienne qui avait fondé un hôpital, et à partir de cet hôpital à Urfa, ils avaient également des hôpitaux à Mayaddin, à Dresor, c'est-à-dire dans la zone tenue par Daesh. Je leur ai dit, mais alors vous travaillez avec Daesh ? Enfin, non, nous on s'occupe des civils, etc. Cette ONG était fondée par un koweïtien d'origine syrienne de la région. Il était très clair que c'était une vitrine, une couverture, et qui permettait d'envoyer des médicaments, de l'argent dans cette région, et donc de financer Daesh, tout simplement.